Merci Seigneur pour ces beaux chants. Je vous invite à lire la Bible dans Matthieu chapitre 6. Il s'agit des instructions que Jésus a données dans un des plus beaux messages qu'il a pu donner et qui nous est rapporté, les instructions de Jésus sur la prière. Et nous sommes dans un monde où beaucoup, beaucoup de monde prie, mais je ne suis pas sûr que Dieu entende beaucoup des prières. Je crois qu'il y en a beaucoup qu'il ne peut malheureusement pas exaucer parce qu'elles sont faites avec toutes sortes de motifs qui ne sont pas bons. Mais là, c'est vraiment le Seigneur Jésus qui nous montre comment prier, tout simplement. Matthieu chapitre 6 et le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et si on continuait de lire ce passage, on verrait qu'il y a toutes sortes de conseils bien pratiques qui sont encore donnés par la suite. Par exemple, le fait de ne pas s'inquiéter par rapport au lendemain, le fait de ne pas savoir ce que notre main donne quand on donne l'aumône, par exemple. Il y a toutes sortes de conseils très très pratiques. Mais je voudrais m'arrêter sur cet aspect de la prière et m'arrêter aussi sur cette façon de prier que le Seigneur a enseigné. Parce que quand on lit ce passage, on se rend compte qu'il y a des façons de prier. Il y a plusieurs façons de prier différentes. Mais il y en a qui sont agréables à Dieu. Il y en a que Jésus dit, voici comment il faut faire. Et il y en a d'autres où il dit, surtout ne faites pas comme ça. La première, elle est évidente dans le verset 5. Il y en a qui prient pour respecter ce qui est extérieur, pour flatter l'apparence, qui font peut-être de belles prières magnifiques. Il parlait entre autres des pharisiens de l'époque, qui avaient toute une culture biblique extraordinaire, qui étaient capables d'employer des mots merveilleux, mais qui le faisaient non pas pour que Dieu les entende, ils le faisaient pour être vus des hommes. Et il met l'accent sur cet aspect-là qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas recopier, mais par contre il dit, quand vous priez, l'important ce n'est pas l'extérieur, l'important c'est ce qu'il y a dans le cœur. Est-ce que vous priez pour que Dieu vous entende? Est-ce que vous priez parce que vous êtes dans un besoin? Est-ce que vous priez parce que peut-être vous êtes dans une situation où il n'y a plus de solution? Est-ce que votre prière, c'est véritablement un cri du cœur? Alors là, entrez dans votre chambre, allez dans un endroit où personne ne va vous voir, mais où seulement Dieu va vous voir. Et là, vous allez faire la prière qui va lui être agréable. Deuxième chose, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Il y a des gens qui s'imaginaient qu'en répétant toutes sortes de paroles, j'ai connu des chrétiens malheureusement qui avaient l'habitude de prier à haute voix, mais qui disaient des choses qui n'avaient ni queue ni tête. C'était des choses bibliques, c'était plein de mots bibliques, mais on dirait qu'ils avaient mis dans un check-up là et qu'ils sortaient ça, et ça voulait rien dire. Et on pouvait même pas dire amen à leur prière, simplement parce que la prière elle était pas cohérente. Et des fois, on a l'impression qu'en employant de belles paroles, de jolis termes comme ça, le Seigneur va pouvoir entendre nos prières. Mais Jésus, il est clair. Ne multipliez pas de vaines paroles. Et c'est vrai que certaines fois, nos prières peuvent être vaines, simplement parce qu'on n'est pas précis. Est-ce que vous êtes précis dans vos prières? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être précis dans nos prières, justement? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller droit au but? Certaines fois aussi, on se retrouve confronté à des personnes qui donnent toutes sortes de détails au Seigneur, comme si le Seigneur ne savait pas les choses. Mais Jésus le dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc ne multipliez pas de vaines paroles, priez, allez droit au but, pour ne pas recopier le slogan d'une certaine équipe. Hein. Mais c'est vrai, dans notre prière, allons droit au but, surtout chez Toulouse, c'est pas bien. Mais c'est les origines qui remontent. Mais voilà, allons droit au but dans notre prière.
Peut-être ce soir, quelqu'un est loin de Dieu. Peut-être ce soir, quelqu'un est dans un problème. Allez droit au but dans votre prière. N'attendez pas quelque chose de particulier, mais dans votre cœur, du plus profond de votre être, dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes ce soir. J'ai besoin d'une parole de toi qui va pouvoir me relever. J'ai besoin d'une parole qui va pouvoir me guérir. » Allez droit au but dans la prière. Des personnes qui prient, mais qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent. Et ça, c'est vraiment l'exemple du Notre Père. J'avais tout un autre message à cœur ce soir, mais j'avais cette pensée, cette prière du Notre Père qui m'est revenue dans le cœur et que je voudrais vraiment vous apporter parce que je suis encore récemment, j'ai encore discuté avec une personne qui priait régulièrement le Notre Père tous les jours, et qui ne comprenait pas ce qu'elle priait. Et c'est ça, multiplier de vaines paroles aussi. Nos paroles sont vaines quand on ne comprend pas les termes qu'on emploie. Et le Notre Père, c'est une prière magnifique. Et j'espère que parce que vous aimez le Seigneur, vous aimez prier le Notre Père. Mais plus que le prier, vous aimez le vivre. Vous aimez comprendre ce que ça signifie et surtout ce que ça implique dans chacune de nos vies, dans ma vie à moi. Et le Notre Père, c'est l'image que Jésus a donnée pour dire « Voici comment vous devez prier ». Juste avant, il dit « Ne faites pas comme ça, ne multipliez pas de vaines paroles ». Mais au contraire, voici comment vous devez prier. Et on comprend bien que c'est de cette manière-là. C'est pas avec les mots exacts, mais c'est dans cette attitude de cœur, dans cette recherche-là. C'est un exemple. Il y a quelqu'un qui disait justement que c'est comme si un architecte, il projette de faire votre maison. Et pour vous montrer le projet, il construit une petite maquette. Et vous, vous avez envie, en voyant la maquette, d'habiter dans la maquette. Vous comprenez? Le Notre Père, il y en a qui l'utilisent de cette manière-là. Jésus, il a montré la maquette de la prière, mais il y en a qui voudraient habiter dans cette maquette-là. Mais c'est pas ça. Nous, on veut habiter dans la maison, dans la vie de prière, dans cet état d'esprit où on voit le Seigneur qui exauce, qui bénit, qui libère quand il y a des besoins de délivrance, etc. En tout cas, que l'on puisse comprendre ce soir que oui, Dieu est appelé Notre Père. Il y a quatre aspects qu'on va voir très très rapidement dans la prière du Notre Père. Quatre aspects, l'appartenance au Père Céleste, l'obéissance au Père Céleste, la dépendance au Père Céleste et la reconnaissance envers le Père Céleste. Quatre aspects qu'on va aller très très vite, mais le premier d'entre eux, je l'avais partagé déjà, mais j'aime le répéter, parce que notre Père, ce qui donne le titre à cette prière, souvent on l'oublie. Que cette prière, on peut la faire si Dieu est notre Père. Et c'est déjà une étape qui est tellement importante. Est-ce que Dieu, vous pouvez dire que Dieu est votre Père? La Bible nous donne toutes sortes de conditions, toutes sortes de paroles auxquelles on doit mettre en pratique pour que Dieu puisse être notre Père. Et il y en a une que j'affectionne beaucoup, elle se trouve dans Jean chapitre 1er, où il est dit très 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 précisément comment on peut avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean et le chapitre 1er, on peut lire à partir du verset 6 pour bien comprendre. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, c'est Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette lumière, le fait d'accueillir le Seigneur Jésus dans notre vie, c'est ça qui nous permet de devenir enfants de Dieu, non pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on a cru en son sacrifice, on a cru en son œuvre à la croix, on a cru que son sang nous purifiait, et parce qu'on accepte toute l'œuvre du Seigneur Jésus dans notre vie, parce qu'on y croit de tout notre cœur, nous pouvons devenir les enfants de Dieu. Et nous pouvons alors à ce moment-là commencer à faire cette prière, « Notre Père qui est aux cieux ». Oui, Dieu peut devenir notre Père ainsi. Est-ce que nous avons reçu cette lumière? Est-ce que nous l'avons accepté? On voit que Jésus, quand il est venu en chair, il est allé, il a brillé dans ce monde, mais les siens ne l'ont pas reçu, comme ça a été dit.
Est-ce que nous sommes appelés, si nous voulons pouvoir prier le Notre Père, à recevoir cette lumière, à recevoir le Seigneur Jésus et à lui faire confiance.
Imaginez un instant qu'un enfant que vous ne connaissez pas court dans la rue et s'accroche à votre cou et dise « Papa, papa, donne-moi un billet, donne-moi 10 euros pour que j'aille m'acheter des bonbons. » Et qu'est-ce que vous allez dire à cet enfant ? « Je suis désolé, mais je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Ça serait mon fils. Oui, je le ferai sans problème. » Et même peut-être qu'on va le faire parce qu'on a bon cœur. Mais on va lui dire « Mais je ne te connais pas. » Et Dieu, est-ce qu'il ne peut pas faire de même, souvent, envers certaines prières qu'on peut lui faire monter ? Notre Père qui est aux cieux. On se permet d'utiliser notre Père alors que ce n'est pas le cas. Et je parlais avec une dame, justement, qui est d'une certaine confession, mais ce n'est pas ça l'important. En tout cas, elle n'avait pas réalisé qu'il fallait qu'elle soit l'enfant de Dieu pour pouvoir dire notre Père. Pourtant, le prier, et le prier, et le prier. Deuxième chose, première chose, c'est qu'on a besoin de comprendre qu'on appartient, qu'on doit appartenir au Seigneur pour pouvoir prier. Deuxième chose, on doit lui obéir, l'obéissance au Père Céleste. Et là, je regroupe trois choses. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on pourrait, sur chacune d'entre elles, faire des messages entiers, tellement c'est profond. Mais je voudrais aller rapidement au but. Comment sanctifier le nom du Seigneur ? Et encore, je parlais avec cette dame, et je lui posais cette question. Comment vous comprenez cette prière ? Comment vous comprenez cette phrase ? Que ton nom soit sanctifié. Et cette dame me disait, mais je pense que c'est que il faut que Dieu soit sanctifié par la louange des gens. Elle n'arrivait pas du tout à m'expliquer ce dont elle parlait. Et je lui disais, mais non. Vous savez que ce que la Bible dit, c'est très simple. Dieu veut être sanctifié par nos vies. Il veut que son nom soit sanctifié par nos vies. Et nous allons dans Ézéchiel chapitre 36, où nous voyons cette phrase, mot pour mot, le Seigneur y dit cette vérité. Ézéchiel, chapitre 36, le verset 23, « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. » C'est le peuple d'Israël qui avait désobéi à Dieu. Et Dieu y dit « Maintenant je vais sanctifier mon grand nom. » « Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Il y a deux choses qui sont dites dans cette phrase, sanctifié par vous, donc par le peuple d'Israël à l'époque, et pour nous aujourd'hui, c'est par les personnes qui sont les enfants de Dieu et qui choisissent de lui obéir. Ma vie va être un moyen de sanctifier le nom de l'Éternel, parce que je disais à cette dame, si vous êtes l'enfant de Dieu, vous portez son nom. Comme mon fils porte mon nom, quand je suis l'enfant de Dieu, je porte son nom. Maintenant, tout ce que je fais va contribuer à défendre ou ne pas défendre la réputation du nom que je porte. Si mon fils fait des bêtises alors qu'il est mineur, c'est moi qui vais en prendre compte. Et quand un chrétien se permet d'être léger avec les choses de Dieu, d'être léger dans son travail, c'est le nom de Dieu qui va être remis en question. C'est pas Dieu lui-même, mais c'est la réputation. Vous comprenez ? Et nous sommes appelés, nous, par nos vies, par nos comportements, à sanctifier le nom du Seigneur, à marcher dans cette sainteté et le faire pour que les autres le voient. Il y a besoin d'avoir une différence dans notre vie. Il y a besoin d'avoir quelque chose qui marque la différence dans notre vie. Aux yeux des nations, aux yeux de ce monde, nous devons avoir cette vie qui est totalement différente. Et quand on lit la suite, le comment ça se passe, comment je peux être sanctifié, comment je peux marcher dans la sanctification, comment je peux être amené à obéir au Seigneur, si je reste dans mon péché, c'est impossible. Si je reste dans ma vie passée, c'est impossible. Il y a besoin de quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a besoin, on voit au verset 24, donc ça, c'est toujours le peuple d'Israël. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai dans tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, et c'est ce que Dieu a fait, on voit dans l'histoire. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Si nous voulons pouvoir obéir au Seigneur, si nous voulons pouvoir faire la volonté de Dieu dans toute notre vie, nous devons d'abord passer par cette étape, que notre cœur tout entier soit purifié. Purifié par la parole de Dieu, purifié surtout en tout premier lieu par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Et je pensais à cette image, alors que souvent on va amener notre voiture, vous savez, au lavage automatique. Imaginez que vous posiez votre voiture au lavage automatique et que donc toute la carrosserie sort nickel, ça brille, c'est magnifique, et que pour corroler le tout, il y a un moteur qui est tout neuf. Est-ce que vous aimeriez pas ça? Qu'à chaque fois que vous lavez la voiture, le moteur il est tout neuf. On a assez de problèmes avec les voitures quand ça tombe en panne. Mais c'est véritablement ce qui se passe quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu accepte que son cœur soit lavé par le sang de Jésus. Parce qu'il y a les souillures qui sont enlevées, mais surtout Dieu il donne carrément un cœur nouveau. Et on peut repartir pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Parce que sinon, c'est impossible d'obéir à Dieu. La seule chose qu'on peut faire, c'est de dire « Seigneur, je suis pas capable de t'obéir, mais je peux comprendre que j'ai besoin de toi. Et j'accepte de dépendre de toi. Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. » Ça, c'est une prière qu'on peut faire. Et quand on prie, que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on pense à toutes ces choses? Est-ce qu'on pense à ce que nos vies soient remises entre les mains du Seigneur? Est-ce qu'on pense que peut-être nous qui ne connaissons pas le Seigneur, on a besoin que notre cœur tout entier soit purifié de nos péchés, purifié de nos souillures, purifié de nos idoles? Et que enfin nous puissions obéir au Seigneur. D'ailleurs, quand on dit que ton règne vienne, Jésus il a dit une chose, une instruction pour que nous puissions entrer dans le royaume. Il a dit à un homme qui était censé connaître très bien la loi, un docteur de la loi, Nicodème, il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Est-ce que quand on entre dans le royaume, on ne permet pas que le règne de Dieu vienne justement? Mais pourtant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naître de nouveau. Vous voyez que ça rejoint véritablement ça. Et c'est encore la suite logique. Que ta volonté soit faite. Comment faire la volonté de Dieu? Comment la volonté de Dieu va se faire sur la terre? Dans le ciel, on sait qu'il y a les anges qui le servent de la meilleure des manières possibles. Les anges merveilleux, tout-puissants, etc. Pas tout-puissants, mais très très puissants. Et qui sont capables de faire des choses extraordinaires pour servir le Seigneur. Mais sur la terre, qui c'est qu'il y a, si ce n'est les hommes et les femmes, bien faibles, bien petits, mais qui sont capables de se soumettre au Seigneur, qui sont capables de dire, Seigneur, oui, j'ai besoin que tu me donnes un cœur nouveau. Et je sais que par moi-même, je ne peux pas obéir. Je voudrais faire le bien, mais je ne peux pas. Je voudrais ne pas faire le mal et je le fais. Seigneur, j'ai besoin d'un cœur nouveau. Donne-moi ce cœur nouveau ce soir. Et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur, oui, je veux faire ta volonté sur la terre. Je veux comprendre que c'est par l'obéissance que je vais pouvoir accomplir toute ton œuvre. Vous savez que Dieu cherche des hommes et des femmes de cette manière-là, qui ont le désir d'accomplir ses volontés. Dans les actes, il est question de cette parole où il concernant David. Dieu qui peut dire, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Est-ce que ce soir, Dieu peut dire la même chose quand il regarde dans ce lieu? Oui, j'ai trouvé telle personne qui peut accomplir toutes mes volontés. Oui, j'ai trouvé un tel ou une autre telle. Est-ce que le Seigneur peut le dire sur chacun d'entre nous? Troisième chose, la dépendance au Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, au verset 11. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et j'ai encore cette image, comme on est dans le cadre de quelqu'un qui reconnaît que Dieu est son père. Est-ce qu'un père ne dépend pas de son... Est-ce qu'un fils ne dépend pas de son père pour ce qui concerne la nourriture, pour ce qui concerne le logement, ce qui concerne toutes sortes de choses bien concrètes de la vie de tous les jours? Le fils, il a jusqu'à un certain âge, il a besoin de ses parents pour toutes ces choses. Et la prière du Notre Père, elle est vraiment dans cet état d'esprit. Oui, j'appartiens à Dieu, oui, je dois obéir au Seigneur, mais maintenant, je veux aussi bénéficier de tout ce que le Seigneur m'a déjà donné. La Bible nous dit que le Seigneur veut nous donner de bonnes choses, mais il veut les donner à ceux qui lui demandent. Et il veut les donner aussi à ceux qui lui obéissent, les bonnes choses. Et combien savent que les choses que le Seigneur veut nous donner sont vraiment bonnes? C'est pas seulement un mot, on a expérimenté, on a goûté que c'est quelque chose d'excellent, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et il y a trois aspects qui sont donnés dans cette prière. Dépendre d'abord de la parole de Dieu. Donne-nous notre pain quotidien. Est-ce que jour après jour, vous lisez la parole? Simplement, mais ça, vous allez me dire, mais c'est déjà cette question, alors c'est, oui, mais Des fois, on se retrouve confronté à des personnes qui disent aimer Dieu, qui disent appartenir à Dieu, qui disent lui obéir, et pourtant qui ne lisent pas la Bible tous les jours. Ou alors qui la lisent, comme moi j'ai pu le faire pendant des années, de manière légère, de manière « allez, il faut que j'ai fait mon chapitre, c'est bon ». Est-ce que nous ne sommes pas amenés plutôt à dire « Seigneur, j'ai besoin d'être nourri par la parole que je vais lire. J'ai besoin d'être nourri par le message que je vais entendre, peut-être à la réunion. J'ai besoin d'être nourri par les discussions que je vais avoir avec des frères et sœurs spirituels qui vont pouvoir m'exhorter. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me parler. » Encore tout à l'heure, quelqu'un me disait « Ah, mais Dieu ne me parle pas. » Est-ce que c'est Dieu qui ne parle pas ou est-ce que c'est nous qui ne sommes pas attentifs à sa parole ? Combien on a besoin d'avoir cet état de cœur et de dire « Seigneur, je désire être nourri spirituellement. Je sais que tu m'as préparé un pain quotidien pour aujourd'hui. » Combien vous savez que les pains que le Seigneur prépare, ils sont merveilleux. Ils procurent la vie, ils nous donnent la force d'avancer. C'est vraiment toute l'image de la nourriture. Mais il y a encore plus de ça. On doit dépendre de Dieu pour obtenir son pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Est-ce que le pardon de Dieu, il n'est pas immense ? Est-ce que le pardon de Dieu, il ne devrait pas tellement nous remplir que toutes les fois où nous devons exercer le pardon, c'est ce pardon de Dieu qui est déversé autour ? Et on se souvient de cette parabole où il y a un homme à qui on remet une dette incroyable, et puis quand il voit son ami à qui il doit une dette également, il est en train de l'égorger pour pouvoir récupérer la somme qu'il lui doit. Non, on ne doit pas avoir cette attitude. Pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons. Et par rapport au pardon, j'ai souvent été confronté à des personnes qui croient que le temps va permettre de régler les choses. Le temps efface les blessures du passé. Le temps ne permet que de l'eau coule sous les ponts et puis c'est bon, on n'en parle plus. Mais ce n'est pas vrai, hein. Et combien c'est une ruse du diable. Mais le Seigneur, il nous dit non, si tu as quelque chose contre ton frère, il vaut mieux même que tu déposes ton offrande, il vaut mieux même que tu arrêtes de chanter le cantique que tu es en train de chanter et que tu ailles te réconcilier avec ton frère. Il vaut mieux même peut-être que tu sortes de la réunion et que si tu penses à quelqu'un, plutôt que de continuer à jouer l'hypocrite, excusez-moi du terme, mais vous comprenez. On a besoin d'être plein de ce pardon que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas de nous-mêmes. De nous-mêmes, on n'a pas envie de pardonner. De nous-mêmes, on n'a pas envie de demander pardon non plus. Mais c'est le Seigneur qui le donne, parce qu'il nous a montré l'exemple. Est-ce que lui, il n'avait pas du travail quand tu as pardonné les millions et les milliards d'êtres humains qui ont péché, qui ont blasphémé, qui ont volé, qui ont tué, etc. Et pourtant, il l'a fait. Et il l'a fait envers tous ceux qui ont choisi de croire en lui. Et tous ceux qui acceptent son pardon. Alors, que nous puissions dépendre de ces choses, dépendre de sa protection face à la tentation, face aux épreuves de la vie, face aux pièges du diable. Jésus, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et ainsi, à chacun d'entre nous, il peut nous garder, il peut nous protéger, il peut nous permettre que aussi l'épreuve ne soit pas au-delà de nos forces. Tout ça, c'est des promesses qu'il nous a données. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ça ne veut pas dire que Dieu est celui qui nous tente, on le sait très bien. Mais c'est l'ennemi qui nous tente. Mais Dieu permet certaines situations pour que nous puissions apprendre à dépendre de lui. Est-ce que nous ne traversons pas peut-être justement une situation difficile avec quelqu'un ? Encore tout à l'heure, quelqu'un qui me disait « il y a telle personne qui ne veut pas me dire bonjour ». J'ai dit « mais est-ce que vous êtes allé la voir ?»« Ah non. » « Et ça fait combien de temps que ça dure ?»« Ah, ça fait 6 mois. » J'ai dit « mais au bout de 6 mois, vous ne voulez pas régler la situation, au moins demander, être sûr, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous avez une conviction que non, je crois que... » Vous voyez, souvent on se laisse piéger par des sentiments, souvent on se laisse piéger par des pensées qui viennent, il y a toutes sortes de choses qui prennent place en nous quand on nous fait du mal ou quand nous on fait des erreurs. Est-ce que ça n'arrive pas de... Qui n'a jamais fait d'erreur ce soir ? Qui n'a jamais blessé quelqu'un, à part les pasteurs ? Vous êtes d'accord, hein ? On a besoin du pardon de Dieu, on a besoin que le Seigneur nous donne sa force pour pouvoir aussi résister, d'avoir cette nourriture solide aussi pour pouvoir résister dans les jours difficiles. Et finir avec cette pensée, la reconnaissance au Père Céleste. La reconnaissance, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est une parole de reconnaissance. À la fin de la prière, Jésus dit, mais... Quand vous priez, c'est bien de demander toutes sortes de choses, la force, le pardon, etc., l'obéissance, c'est très bien. mais louez le Seigneur aussi. Soyez reconnaissant dans votre cœur, parce que tout ce que vous demandez, le Seigneur, il sait très bien ce dont vous avez besoin, et il va vous l'accorder, parce que c'est un Père qui vous aime, qui est bienveillant, et qui veut vous aider à aller plus loin. Et pour tous ceux qui sont perdus, qui sont loin du Seigneur, il vous a donné le moyen d'être sauvés déjà. Il a envoyé son Fils depuis longtemps, depuis plus de 2000 ans maintenant, pour que vous puissiez être sauvés. C'est à vous maintenant de le reconnaître. Et une fois que vous avez fait cette expérience merveilleuse d'accepter le Seigneur Jésus, alors on n'a pas besoin de l'enseigner, il y a une reconnaissance dans le cœur. Il y a une joie, comme on le chantait tout à l'heure, une joie qui déborde de notre cœur, parce que c'est tellement incroyable. C'est une reconnaissance parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne méritait pas. Et cette prière même tout entière, cette partie-là de reconnaissance, c'est tout un résumé de ce qu'on vient de partager. C'est à toi qu'appartiennent, rien que ça. Est-ce que ma vie appartient au Seigneur? Parce qu'on reconnaît que à Dieu, il y a tout qui appartient à Dieu. Mais déjà, est-ce que ma vie lui appartient? C'est à toi qu'appartient le règne. Oui, tu mérites, Seigneur, de régner dans mon cœur. Tu mérites d'avoir mon obéissance. C'est à toi qu'appartient la puissance. C'est toi, Seigneur, qui me donne la puissance de marcher, la puissance d'avancer, la puissance de tenir bon face à la tentation, la puissance pour traverser la maladie, les temps difficiles. Seigneur, c'est toi qui as la puissance. Mais, Seigneur, c'est à toi qu'appartient la gloire. C'est à toi qu'appartient la gloire. Tout ce que je peux vivre, Seigneur, vient de toi et ne sert qu'à une seule chose, à glorifier ton nom. Est-ce que nous avons cette vision véritablement de l'œuvre de Dieu, que tout contribue à la gloire de Dieu? Même peut-être la maladie que je vais traverser, ou une épreuve, ou une dispute peut-être avec quelqu'un, ça va m'apprendre quelque chose. Ça va contribuer à la gloire de Dieu si je suis obéissant, bien sûr. Si je marche dans la volonté de Dieu, parce que si je laisse l'amertume me submerger, c'est pas la colère de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu, hein, n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Tout vient de Dieu et tout est grâce. Je ne mérite pas d'être l'enfant de Dieu, et pourtant je peux le devenir. Je ne mérite pas de vivre dans une vie délivrée du péché, et pourtant je peux y vivre dans cette vie, parce que le Seigneur me donnera sa force. Je ne mérite pas d'être délivré dans l'épreuve, mais le Seigneur va intervenir parce qu'il est bon envers moi. Il nous a créés, dit Éphésiens, à la louange de sa gloire. Il nous a créés pour que nous puissions louer sa gloire. Et c'est vrai que quand je lisais ce verset, je me posais cette question. Est-ce qu'on peut louer quelque chose qu'on ne connaît pas? Donc ça veut dire que le Seigneur veut que nous connaissions sa gloire. Et il veut que si nous traversions une épreuve, il veut manifester sa gloire dans cette épreuve. Il veut que si nous traversons un deuil, nous voyons sa gloire dans cette épreuve. Non pas que nous allons rester dans l'attristement, dans l'abattement. Et il y a cette tristesse qui est naturelle, qui est normale quand on perd un être cher. Mais il veut nous donner, transformer notre deuil en une joie qu'on ne va pas comprendre, qui vient du ciel directement. La joie simplement d'être sauvé. La joie de savoir aussi que la personne partie est sauvée. Toutes ces vérités qui sont là. Oui, le Seigneur veut manifester sa gloire. C'est à toi qu'appartienne la gloire, Seigneur. Et je veux croire que dans toutes les choses que je vis, de peut-être les moqueries au travail à cause de ma foi, je crois que c'est ta gloire, Seigneur, que tu veux manifester. Seigneur, je crois que dans ces troubles que j'ai dans ma famille, parce que aussi je suis chrétien, je crois que c'est ta gloire que tu veux manifester. Oui, Seigneur, c'est à toi qu'appartienne la gloire. Alors que nous puissions conclure cette prière et peut-être la reprendre et la méditer et la prier et en conclure de cette manière-là, comme c'est dit, amen. Ainsi soit-il. Je suis d'accord avec toutes ces choses. Je suis d'accord avec la beauté de cette prière, mais je suis surtout d'accord avec tout ce qu'elle représente. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de comprendre que je t'appartiens. J'ai besoin de comprendre que je dois t'obéir. J'ai besoin de comprendre que je dois dépendre de toi. J'ai besoin de comprendre que je dois être reconnaissant aussi dans mon cœur. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Notre Père puisse devenir véritablement notre prière. Vous savez que les disciples sont venus vers Jésus et lui ont posé cette question. Enseigne-nous comment prier. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il a donné cette prière. Alors que nous puissions, dans l'état dans lequel nous sommes, quelle que soit la situation, que nous puissions faire la prière qui plaît au Seigneur, la prière secrète de notre cœur, mais la prière vraie et sincère. Amen. Merci Éternel. Merci pour ta parole. Merci pour la richesse de ta parole. Merci pour la puissance que tu nous donnes, Seigneur, parce que toutes ces choses, nous pouvons les accomplir seulement parce que tu nous le permets de le faire, Seigneur. Nous pouvons être tes enfants.
en réalisant que nous sommes pécheurs, en nous repentant, nous pouvons devenir tes enfants en recevant ta lumière dans notre cœur, en laissant notre cœur être purifié par ton sang. Nous pouvons, Seigneur, laisser notre vie être l'endroit où tu vas régner, l'endroit où tu vas avoir ton trône et où tu vas pouvoir manifester ta gloire comme nous l'avons dit. Seigneur, nous te demandons que tu puisses inscrire encore plus profondément en nous ces paroles que nous avons partagées. Tu puisses nous aider, Seigneur, à marcher dans la sanctification, à résister à la tentation, à voir ta gloire dans les épreuves, dans les difficultés de la vie et que nous puissions constamment avoir ce cœur reconnaissant envers toi. Parce que nous savons que tu ne manqueras jamais dans la détresse, tu seras toujours cet appui, Seigneur. Et quelle confiance nous pouvons avoir, quelle assurance nous avons, Seigneur, de savoir que tu es notre Père qui est dans le ciel et qui règne. Merci Éternel pour ta parole. Amen.